Chapitre 2 Les arbres se livrent. Dans le Menet, l'eau coule à flot depuis l'ère des fées Margot. Il devenait urgent de trouver un protecteur pour les sources et les ruisseaux. Un être qui puisse améliorer la qualité de l'eau et réduire le risque d'inondation pendant les basses saisons. Puis, l'été, le soleil brillait si fort que parfois l'eau s'évaporait et le travail des fées disparaissait. Ainsi, pour rester humide et fertile, la terre se trouva un allié de taille, l'arbre. Il deviendra un des acteurs les plus importants de la diversité biologique. Aujourd'hui, si parfois son ombre vous inquiète, souvenez-vous que c'est elle qui abrite et qui rassemble. L'arbre est un médiateur. Pour éviter que le soleil ne se heurte trop au sol, il dessine des ombres. C'est aussi lui qui sculpte la pluie. Il dégage de la vapeur d'eau dans l'atmosphère et produit des germes qui s'agglomèrent autour des molécules pour former les gouttes d'eau. Il organise l'espace tout en s'adaptant à son environnement par l'aisance de ses mouvements. C'est une architecture qui s'étend silencieusement et qui triomphe du temps. Mais par-dessus tout, les arbres sont curieux et ils ont bonne mémoire. Avant que le papier recueille l'écriture, c'est la forêt qui conservait les histoires.
La forêt de la Hardouinée est installée sur des terrains sédimentaires très anciens qui génèrent des sols globalement acides, fréquemment hydromorphes et localement tourbeux. La rivière Le Meux, qui prend naissance sur la commune de Saint-Vrant, passe dans la bordure nord de la forêt et alimente l'étang de la Hardouinée. Cette forêt a connu une immense activité industrielle au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Les forges de la Hardouinée constituaient l'un des plus grands sites de Bretagne pour la production de fer.
À la Hardouinée, on a décidé de ne jamais chasser un cerf mulet, le moins possible. Un cerf mulet, c'est un cerf qui a perdu ses bois. Donc on part à la chasse, les chiens tombent sur 3 cerfs mulets, donc pas question de les chasser. On essaie d'arrêter les chiens, et pendant ce temps-là, il y a un cerf, une quatrième tête, qui écoutait la chasse et qui nous regardait. Il se dit, c'est pas pour moi, je suis tranquille. Mais bon, il est resté un peu trop longtemps de nous regarder, comme il fallait qu'on chasse un cerf avec des bois. On a ramené les chiens, c'était en tout début de chasse, on ramène les chiens et on le chasse. On n'a pas eu de chance. Et puis, il fait une chasse traditionnelle. Et il arrive, il traverse l'étang et on le perd. Et là, les chiens, on fait chasser, on le recherche avec des chiens pendant deux heures, avec des giboulées de grêle à blanchir les toits. On ne trouve rien, on décide de rentrer, de faire un dernier tour, et là, les chiens tombent sur un chevreuil. Le chevreuil, bien sûr, il crie arrête sur les chiens. Le chevreuil saute sur le cerf qui était caché sous une tassée de houx. Hop, le cerf est reparti, bien sûr. Et les chiens l'ont pris un quart d'heure après. C'est le chevreuil qui a vendu le cerf.
Là, il y a beaucoup de cerfs qui perdent leur bois. Ils seront terminés. Ils vont se frotter contre les arbres pour enlever le velours qui enveloppe. Le velours, c'est une petite peau irriguée qui favorise la croissance de l'os, quoi. Et à la fin, dès que le bois a fini de pousser, cette peau-là tombe. Mais pour la faire tomber, ils se frottent contre les arbres et ils abîment les arbres. Et au printemps, c'est la sève qui les intéresse. Alors ils sont capables de prendre une écorce et de dépouiller un arbre de son écorce.
Donc, il y a le beau chêne Cécile qui se trouve derrière le château. Là. Et une tempête, il a perdu une grosse branche, une branche maîtresse de son fût, quoi. Et donc j'ai des propositions de faire une sculpture là-dessus, de travailler là-dessus. Donc moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'était qu'en fin de compte, un arbre, c'est un fût avec, avec plusieurs départs, plusieurs branches qui font la CP, quoi, qui font. Et moi, ce que ça m'a fait penser, cette branche qui s'est arrachée, en fin de compte, elle m'a fait penser à une famille. C'est un peu une famille, un arbre, ça peut être avec le socle familial qui serait le tronc, et toutes les branches qui seraient les enfants de tout ce qui a créé, quoi. Et à un moment, le fait que cette branche est partie est tombée avec la tempête qui peut représenter aussi une, on peut voir ça comme ça, une engueulade familiale ou bien quelque chose, un fait historique, quelque chose qui serait passé dans la famille, quoi. Et donc cette branche, moi j'ai sculpté racine. Pourquoi ? Parce que justement, à un moment dans sa vie, il faut savoir partir, il faut savoir quitter le foyer, il faut savoir couper le cordon ombilical qui nous relie à nos frères et sœurs, à notre famille. Et donc racine, c'est ce qu'elle représente en fin de compte, elle s'en va, c'est la sculpture, elle s'en va, elle est partie, elle est détachée de son lien familial, elle est détachée de l'arbre, mais en fin de compte, elle s'en va, mais elle a quand même, tout en partant, elle va vers l'avant, mais tout en partant, elle a un mouvement de retour, elle regarde en arrière, mais elle part de l'avant, c'est-à-dire qu'elle elle s'en va sans oublier ce qu'elle était, d'où elle vient, qui elle est, quoi.
J'avais quelque chose comme 13 ans et dès cette époque-là, j'avais beaucoup de contacts avec la nature et donc je m'arrangeais pour aller voir la forêt qui se trouvait à une dizaine de kilomètres de la maison. Et je suis parti un soir de février et c'était un ciel très pur, très bleu, transparent. Il y avait un grand silence et à ce moment-là, au fond des bois, s'est élevé un chant de merle. Je me suis arrêté, ému par la beauté du chant de ce merle, comme si quelque chose de la voix de l'univers se faisait entendre à la tombée de la nuit. Et c'était un moment d'enchantement. Voilà, tout simplement, très simple, on ne peut pas faire plus simple. Un moment d'enchantement, puisque pour moi, le merle est probablement l'un des plus beaux chanteurs des oiseaux de Bretagne, puisque, en gros, nous n'avons pas de rossignol en Bretagne. Donc, le merle fait un peu office de maître chanteur en Bretagne.
En fait, ça m'énerve parce que, en fait, j'aime pas des petits arbres. En plus, il y a un grand arbre, mais moi, je peux pas y monter.
L'if dans le bourg, l'arbre remarquable, il a été planté au temps de la construction de l'église. Après, il s'est développé. Il y a un merisier qui a poussé à l'intérieur. S'il pouvait raconter tout ce qu'il a entendu, il en dirait des choses.
Oui, alors, étant enfant, je passais beaucoup de vacances en Alsace. Et donc, il y a des grandes forêts, hein, des forêts de sapins, mais avec des noisetiers aussi. Et on faisait beaucoup, on jouait beaucoup avec les noisetiers. On se faisait des arcs, on se faisait des bâtons, on sculptait, etc. Et avec le sureau, on jouait à se faire des petits pipeaux.
Et si tu commences à faire de l'arbre vivant, bien vivant, tu te dis bon, on va pas le toucher, quoi. On peut plus le toucher, quoi.
Tu veux plus toucher quoi ?
Un arbre, si tu te mets dans le crâne qu'il est vraiment vivant, il est vivant, bien sûr, mais qu'il commence à penser et tout, là, tu l'as pas pu, quoi.
Moi,
comme les lapins, il ne faut pas les regarder les dans les yeux.
Je ne supporte pas les voir toucher.
Bon, ils se couchent tout seuls.
Mais on sait qu'il faut aérer. Certains sont malades, je sais bien, mais quand même.
Ah oui, même malade.
Même nous, malades.
Il abrite quand même des bestioles.
Nous, on nous souhaite. Hein?
Même malade, il abrite des bestioles quand même.
Même des plantes, tu vois, on essaye de les sauver quand elles sont un peu malades, tout ça et tout. Essaye de les sauver nos plantes.
Ah ben moi, j'essaye toujours.
Oui.
Hein. Moi, j'en avais dessiné avec maman, elle en avait dessiné un. Et moi, il y en a un qui a beaucoup, qui a sauté le dodo à côté du château. Tu vois, c'est comme si c'était un cheval, et c'était comme ça. Dessus, et puis après, moi j'imagine que c'est un cheval.
Mais les arbres, c'est a priori, c'est
On appelle ça des branches en fait, mais la plupart des branches sont des arbres. Il y a plein d'arbres qui sont colonnaires. J'avais lu ça dans un bouquin de Francis Allais.